Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 27 avril 1988.
Après avoir regardé rapidement cette première approche de la quantité par le langage, puis dans la connaissance pré-philosophique et la place de la quantité dans les connaissances mathématiques et scientifiques qui dépendent des mathématiques. Notons tout de suite que notre connaissance philosophique de la quantité, à la différence de la qualité, n'est pas une connaissance directe. Et ceci, on le voit tout de suite à partir des espèces même de la quantité, à la différence des différentes espèces de la qualité. La quantité, en effet, n'est l'objet propre d'aucun des sens externes, qui sont au contraire immédiatement ordonnés aux divers sensibles propres. La quantité reste quelque chose de sensible, mais ce n'est pas un sensible direct, un sensible propre. Mais elle reste dans le domaine sensible. C'est ça qu'il faut bien saisir. C'est une sorte de méta-sensible, si vous voulez. C'est un sensible au-delà du sensible, immédiat, et qui conditionne tous les sensibles. Alors c'est ce lien qu'il faut essayer de saisir entre le sensible qualitatif de chacun de nos sens qui nous est donné directement et le support de ces différentes qualités qui est du domaine de la quantité. Les sensibles communs implique le continu, le nombre, puisque les réalités sensibles de notre univers impliquent certaines dimensions, et ces dimensions impliquent justement le propre de la quantité. Le continu et le nombre sont donc sous-jacents à toutes nos expériences et les conditionnent. Il y a ça qui est présent. Toutes nos expériences impliquent un contact avec le point de vue de la quantité. Et toutes nos expériences sont conditionnées par ce domaine de la quantité. Si donc la quantité n'est pas atteinte directement et immédiatement par telle ou telle sensation, elle est toujours présente à toutes nos sensations. Elle est atteinte indirectement, médiatement, sans être donc immédiatement sentie, elle s'impose et de diverses manières. Elle est quand même sentie, c'est ça qui est très curieux, puisqu'elle est sensible. La quantité n'est pas immatérielle. La quantité est liée toujours au domaine physique, au domaine matériel. Si l'on peut choisir telle ou telle qualité, telle ou telle sensation de vision ou d'odorat, on ne peut effectuer le même choix à l'égard de la quantité. Celle-ci demeure toujours présente, médiatement. Mais quelque chose qu'on ne choisit pas, il y a quelque chose d'indivisible dans la qualité, et la quantité s'impose. s'impose et elle est présente. Elle ne se manifeste pas avec évidence et avec éclat. En ce sens, on peut dire qu'elle demeure comme voilée. Mais elle s'impose. J'allais presque dire que elle englue presque nos sensations. Vous voyez, la qualité donne cette note d'éclat, tandis que la quantité donne une sensation d'épaisseur, d'englument. Ça, c'est le propre du conditionnement. C'est pour ça qu'elle conditionne. C'est qu'elle nous met devant nos limites. Elle met devant quelque chose dont on ne peut pas se séparer et qui pourtant ralentit notre marche intellectuelle. En effet, à travers toutes nos sensations externes, nous ne saisissons pas seulement les simples qualités sensibles, nous les saisissons dans tel ou tel conditionnement provenant de la figura, de leur physionomie, provenant du mouvement, provenant du repos, de la grandeur ou de la petitesse, et qu'à faire l'expérience de n'importe quelle qualité. Ce n'est pas la même chose de voir un point rouge ou de voir une étendue rouge. Voyez, de voir, penser à certaines formes d'art au point de vue pictural, où justement on est en lutte contre ce conditionnement de la couleur, et on essaie de briser ce conditionnement. Parce que je crois que le grand artiste essaie toujours de dégager la qualité de son conditionnement. Donc de briser le conditionnement, d'une manière ou d'une autre, pour que la qualité apparaisse d'une manière plus immédiate. C'est très curieux, cette espèce de lieu de lutte que représente la quantité. Vous voyez, ça englue. C'est quelque chose d'épais. C'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin, c'est comme un mur. Et on lutte tout le temps contre la quantité. J'allais presque dire, on la saisit dans la lutte. Comme du reste au conditionnement. C'est toujours le lieu de toutes les luttes. Et là, en même temps, c'est le lieu où la qualité risque, en face d'une quantité toujours plus grande, de se diluer d'une manière telle qu'elle perd son intensité. Je crois qu'on peut assez facilement saisir cette sorte d'opposition et en même temps de concours entre les sensibles propres et les sensibles communs. Comment ? Les sensibles communs, ils sont toujours donnés avec les sensibles propres. Vous n'avez jamais saisi un sensible propre sans le sensible commun. Donc ils sont tout le temps donnés. Et pourtant, on cherche à saisir le sensible propre dans toute sa pureté. Vous voyez, l'art abstrait au point de vue pictural, c'est très significatif. C'est ça qu'on cherche. On cherche à mettre la qualité, le sensible propre, dans toute sa lumière, en le séparant de son conditionnement. Mais on ne peut pas, parce qu'on en recrée un autre, mais on brise celui qui est habituel. Vous voyez pourquoi dans Picasso, il y a toujours ces brisures, ce besoin de briser. C'est pour mettre en lumière la qualité propre, le sensible propre. Dans un monde comme le nôtre, qui essaie de diviser pour mieux comprendre. Je crois qu'on sent très fort cette sorte de lutte entre les sensibles propres et les sensibles communs. Oui, c'est une manière pour nous de saisir ce domaine propre de la quantité, irréductible au domaine de la qualité. C'est toujours à l'égard de nos sensations et de notre imagination que nous devons saisir cette lutte et en même temps cet accompagnement, puisque la qualité, les sensibles propres ne sont jamais seuls et donc sont toujours accompagnés des sensibles communs. Et alors ce que je vous ai déjà dit, et je crois très important pour nous de bien le saisir, comment dans le domaine des sensations, les sensibles propres apparaissent premiers, et comment dans le domaine de l'imagination, c'est l'inverse. Mais on retrouve toujours cet accompagnement, mais il n'est pas le même d'un côté comme de l'autre. Alors on peut évidemment essayer de saisir la quantité à partir du nombre, de la grandeur, à partir de la physionomie. Vous voyez, chacun des sensibles communs qui restent sensibles nous donne bien une certaine connaissance de la quantité. Mais la quantité n'est pas le mouvement, la quantité n'est pas le nombre, la quantité n'est pas le continu, mais c'est ce qui permet le continu, c'est ce qui permet le mouvement, c'est ce qui permet la grandeur. Et c'est par là qu'on essaiera de saisir qu'est-ce que c'est que la quantité. Vous voyez, comprenez bien, il y a une connaissance de la quantité sensible qu'il ne faut surtout pas oublier. Et puis, cette connaissance sensible de la quantité me fait poser le problème, qu'est-ce que c'est que la quantité ? Que la quantité existe, qu'elle me soit donnée, c'est bien évident. Elle m'est donnée à travers ses sensibles propres. Elle m'est donnée comme au-delà des sensibles propres. Et dans le domaine de l'imagination, elle m'est donnée comme première, immédiate. C'est le domaine de l'image, de la synthèse du tout imaginatif. Les qualités sensibles, les sensibles propres ne permettent pas de synthèse, d'addition, de soustraction, de former un tout. Alors que les sensibles communs, immédiatement, s'agglutinent et se forment en tout, en addition, en soustraction. Ça, je peux en avoir l'expérience. Et je crois que cette expérience est très importante. Vous voyez, il ne faut pas spéculer tout de suite sur la quantité. À cause des mathématiques. Le mathématicien spécule tout de suite sur la quantité. C'est très bien pour lui. Mais nous ne connaissons pas la quantité par les mathématiques, au plan philosophique. Nous connaissons la quantité par l'expérience. L'expérience externe, où la quantité apparaît toujours comme un support, méta-sensible tout en étant encore sensible, au-delà du sensible propre, immédiate. Et dans nos expériences internes, la conscience que nous avons de nos états psychologiques, de nos réactions, la quantité apparaît comme première. serait peut-être du reste ce qui permettrait de bien comprendre comment, si notre philosophie commence par l'expérience interne, elle ne pourra jamais rejoindre le jugement d'existence. Parce que si nos expériences externes mettent toujours la quantité au second plan et que les sensibles propres apparaissent immédiatement, on comprend comment mon contact avec le réel existant, l'autre, est par les sensibles propres. Que la quantité conditionne ce contact, mais ce contact n'est pas par le point de vue du conditionnement. Il est par les sensibles propres qui me mettent directement en présence d'une réalité autre que moi, irréductible dans ses qualités. Tandis qu'au contraire, les expériences internes que je peux avoir de la douleur, de la souffrance ou même de la pensée, l'imagination est toujours très présente. Et c'est cette imagination toujours très présente qui me met en contact premier avec la quantité, avec le conditionnement, et non pas avec la qualité. Je ne retrouve la qualité qu'à partir du conditionnement, et pas directement. Et c'est pour ça, je crois, qu'on ne saisit jamais le jugement d'existence en partant d'expériences internes. On saisit le comment, le conditionnement. On ne saisit pas ce qu'est la réalité. Vous voyez, là, il y a un partage des eaux qui me semble important à saisir pour nous et qui nous aide à comprendre ce que c'est que la quantité. C'est-à-dire quelque chose qui n'est jamais saisi directement et qui n'est saisi directement qu'à partir de nos expériences internes. Dans notre imagination. Mais même dans l'imagination, on pourrait se poser la question, est-ce que la quantité est saisie directement? Je crois que c'est le domaine de la partie du tout. Et alors dans l'imagination, nous ramenons toujours tout à cette espèce d'enveloppement. Et donc, dans l'ordre de l'imagination, je crois que la quantité est première et qu'elle se donne à nous comme ce qui est premier. C'est à partir de ces expériences multiples, hein, vous voyez, parce que vous pouvez prendre les cinq sensibles communs, et à partir des cinq sensibles communs, vous avez comme cinq manières d'aborder la quantité. Je crois que vous pouvez facilement comprendre. Ça ferait comme une petite induction, vous voyez. Une sorte d'induction qui permettrait de saisir ce qu'est la quantité. Si vous prenez la grandeur, qui est continue. Le nombre. Le point de vue du mouvement. Le point de vue du repos. Et puis la figura. Ceci est saisi par mes sens, est saisi dans mes sensations. Donc, j'ai une connaissance sensible de ces cinq. Cette connaissance sensible éveille mon intelligence pour me demander qu'est-ce que c'est que la quantité. Et la quantité n'est ni la grandeur, ni le nombre, ni le mouvement, ni le repos, ni la figura. Et cependant, la quantité est présente dans ces cinq. Je ne peux pas penser le mouvement sans quantité. Je ne peux pas penser le repos sans quantité. La figura sans la quantité, le nombre et la grandeur sans la quantité. Et cependant, la quantité n'est pas cela. Quand j'essaie de savoir qu'est-ce que c'est la quantité, comme telle, c'est comme ce qui est présent à ces différentes sensibles communs. Et qui n'est pas ce sensible commun. C'est pour ça que je vous dis, il y a comme une sorte d'induction. J'ai cinq expériences. Et je me pose la question et je vois bien qu'il y a quelque chose de commun. Il y a quelque chose de commun dans la grandeur, le nombre, le mouvement, le repos, la figura. Il y a quelque chose de commun à ce sens que tous donnent un conditionnement. Tous conditionnent les sensibles propres. Tous sont comme un support des sensibles propres, comme quelque chose qui est radical par rapport aux sensibles propres. Donc, ils sont bien, dans mon expérience, quelque chose que je saisis, mais ils ne sont pas la quantité. Et c'est à partir de là que je me pose la question, qu'est-ce que c'est que la quantité ? Présente dans ses différents aspects. Qu'est-ce qu'il y a de commun ? Oui, une induction très spéciale, hein ? Parce que c'est une induction à l'intérieur de la quantité. Alors, une induction à travers... Nous avons toujours dit que l'induction est qualitative. Et ici, je me trouve en face d'une sorte d'induction. Il faut bien. Je me pose la question du tiesti. Qu'est-ce que c'est que la quantité ? Qu'est-ce ? Qu'est-ce la quantité ? Qu'est-ce que c'est ? Elle existe, puisqu'elle m'est donnée. Mais elle existe d'une manière très particulière. Elle existe toujours entre deux aspects. Elle existe relativement aux qualités. Elle existe relativement à un sujet, substance. Donc, elle est coincée entre les deux. Parce que la quantité n'existe jamais sans la qualité. Et elle n'existe jamais sans le sujet. Rappelez-vous les catégories, tout simplement. Et c'est le domaine propre, justement, de la quantité d'être un intermédiaire. Elle unit. D'une certaine manière, je dis d'une certaine manière, elle unit la qualité et la substance matérielle. Si j'ose dire, la substance matérielle, c'est-à-dire la nature matière, fait le lien entre les deux. Et c'est en ce sens-là, comme toujours, ce qui est intermédiaire conditionne. Seul ce qui est intermédiaire conditionne. Ce qui est saisi directement ne conditionne pas. Et ce qui est saisi radicalement non plus. C'est le fondement. Donc c'est ce rôle tout à fait particulier de la quantité qui conditionne, qui fait le lien entre les deux. Vous voyez ? Je ne dis pas qu'il fait le contact, mais qu'il permet le contact, la condition. C'est peut-être ça le propre, au point de vue profond, de la quantité. C'est d'être ce domaine particulier qui permet tous les échanges, qui permet tous les contacts. Pour ça, il faut qu'elle soit un peu neutre. Trop déterminée, elle ne permettrait pas ses contacts. La qualité fait l'unité, mais fait aussi les oppositions. Tandis que la quantité permet les contacts. Elle est là, intermédiaire. Alors qu'est-ce qu'elle est en elle-même par rapport à l'être ? Qu'est-ce que ça représente, ce domaine de la quantité ? Je crois qu'on peut dire que tout de suite, la quantité va donner une extension à ce qui est. Le domaine des sensibles propres sont indivisibles, tandis que la quantité apparaît tout de suite comme donnant une certaine dimension, une certaine extension, parce que radicalement, elle est le divisible. Elle apporte la divisibilité. Quand j'interroge ce que c'est que la grandeur, ce que c'est que le nombre, qu'est-ce que c'est que le mouvement, le repos et la figura, je retrouve toujours dans ces différentes modalités de quantité, je retrouve toujours l'extension, les dimensions. Je retrouve toujours quelque chose de divisible. Alors, c'est ça qui serait curieux à voir. Est-ce que c'est le divisible qui essentiellement permet les contacts ? Est-ce que c'est le divisible qui essentiellement permet une sorte de médiation ? Parce que c'est une sorte de médiation que joue la quantité par rapport à la qualité et à la substance. Voyons, on n'a pas, vis-à-vis de la quantité, un regard tellement direct, même de l'intelligence. L'intelligence n'est pas à l'aise dans la quantité, alors qu'elle est tellement à l'aise dans la qualité. Elle n'est pas à l'aise du tout. On s'englue. On tourne autour. Parce que, au fond, la quantité apparaît comme ce domaine des dimensions, ce domaine de l'extériorité. La quantité extériorise. Alors que l'intelligence, intus les durées, elle veut toujours lire de l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait obstacle à cette lecture de l'intérieur ? C'est le domaine de la quantité. Elle est vraiment comme un obstacle. Et pourtant, elle existe. Donc elle est intelligible. Autrement, elle n'existerait pas. Elle a par elle-même une opacité qui irrite l'intelligence. Je comprends très bien comment l'intelligence s'irrite devant la quantité. Parce que c'est comme un mur. Tu ne me franchiras pas. Et ça fait comprendre aussi, vous voyez, l'abstraction mathématique. Puisque la quantité est si difficile à saisir par elle-même, on va l'emprisonner en la formalisant. En formalisant la quantité, on la met dans une prison dorée. On ne sait pas ce qu'elle est. Le mathématicien ne sait pas ce que c'est que la quantité. Mais il sait la formalisation de la quantité. Il ne sait pas ce que c'est que la quantité. Et ça lui importe peu du reste. Ça l'irriterait de savoir qu'il ne sait pas la quantité. Il formalise. Pourquoi formalise-t-il? C'est parce que justement la quantité lui échappe. Et pourtant la quantité est présente. Et la quantité permet, encore une fois, le contact. Permet, j'allais presque dire, de pouvoir posséder quelque chose. Là, on regarde le point de vue de la connaissance pratique. Très curieux que c'est par la quantité qu'on possède. C'est pas la qualité. La qualité, elle est quelque chose qui nous détermine. On ne la possède pas, la qualité. Tandis que la quantité, c'est quelque chose qui demande d'être possédé, d'être actué. Alors, si on veut essayer vraiment de saisir la quantité du point de vue de ce qui est, de l'être, la quantité, c'est cette forme, une certaine forme, une forme matérielle. Oui, c'est presque contradictoire. Et pourtant, c'est bien un mode, si vous voulez, plutôt dit un mode de l'être, qui est le divisible, qui apporte à l'être la divisibilité. C'est ça qu'apporte la quantité. Le divisible, qui va pouvoir alors s'étendre dans la grandeur. La grandeur, c'est indivisible, qui va pouvoir se nombrer, parce que ce qui est divisible, on peut ajouter et soustraire, et c'est ça le propre du nombre, qui va pouvoir impliquer le mouvement, puisque le mouvement, c'est justement ce passage incessant d'une forme à une autre forme. C'est le changement. Et le changement implique une certaine continuité. Et c'est la quantité qui fait cette continuité, donc qui permet le changement. Qui permet le changement incessant. À cause de sa divisibilité. Et sa divisibilité à l'infini. Puisque c'est le divisible. Donc je ne peux pas réduire le divisible à quelque chose qui n'est pas divisible. Le divisible est essentiellement divisible. Donc je peux le diviser. Et donc je peux le diviser à l'infini. Vous voyez comment tout de suite le divisible implique l'infini. C'est ça qui est très curieux. La quantité par elle-même apporte l'infini. Un infini très subtil. C'est pas un gros infini. C'est un infini très unique, puisque c'est le divisible à l'infini. C'est le divisible le plus pur, celui-là. C'est le divisible le plus intellectuel. Et c'est vrai, je peux le diviser à l'infini. Je peux toujours en ajouter, toujours en soustraire. Autrement, c'est pas le divisible. Je peux très bien dire, à un moment donné, je ne peux plus le toucher. Mais mon intelligence qui atteint le divisible comme quelque chose qui peut être divisé à l'infini. Autrement, je mets quelque chose d'autre que le divisible. Le divisible est actué par autre chose que le divisible, mais il est par lui-même toujours actuable. Autrement, il ne serait plus le divisible. Vous voyez qu'on trouve là quelque chose de très curieux, parce qu'on comprend pourquoi la quantité est si irritable pour le philosophe. Donc c'est très important de comprendre l'irritabilité que suscite la quantité à l'intelligence. Intus les durées, et la quantité met l'extériorité. Donc, elle est par elle-même antithétique par rapport à l'intelligence. Elle fait quelque chose de juste l'inverse. Elle extériorise, elle juxtapose, et elle est en elle-même quelque chose de divisible à l'infini. Divisible à l'infini, c'est-à-dire qu'elle est en puissance. Elle existe comme un être qui est essentiellement en puissance. Et c'est pour ça que l'intelligence ne l'aime pas. La raison aime la quantité, mais pas l'intelligence. La raison comprend très bien, puisque la raison est à l'intelligence ce que la quantité est à la qualité. Et donc, si la raison est à l'intelligence ce que la quantité est à la qualité, on comprend très bien ces espèces de complicité qui existent entre la raison et la quantité. La raison conditionne mon intelligence et la quantité conditionne la qualité. Donc, c'est les complicités qui existent toujours dans le conditionnement. Parce que c'est le point de vue de la puissance, ce qu'est l'être en puissance. L'être en puissance a une situation d'infériorité, puisqu'il est toujours relatif à l'être en acte. Un être qui est toujours inférieur, il fait des complexes. Alors la quantité, c'est la complexité de l'être, vous voyez ? C'est le complexe radical de l'être, psychologiquement parlant. Puisque c'est ce qui conditionne, c'est ce qui limite, c'est ce qui empêche l'être d'être parfaitement actué. L'être n'est jamais parfaitement actué dès qu'il y a la quantité. C'est ça qui agace l'intelligence. Que vous la divisez, vous croyez la saisir, mais pas du tout. Elle est le divisible de ce qui est divisé. Et elle est perpétuellement le divisible de ce qui est divisé. Ce qui est actué reste divisible, donc il reste en puissance. Et donc ce qui est actué n'est pas le divisible. Vous voyez, c'est ça qui fait que ça nous chagrine. Au bout d'un certain temps, c'est très agaçant, ce domaine de la quantité. Il existe, je ne peux pas le nier. Ma philosophie réaliste m'oblige d'accepter la quantité. Mais mon intelligence, en tant qu'intelligence, voudrait beaucoup le supprimer. En l'actuant. Et en l'actuant le plus possible. Et cependant, il reste toujours le divisible. Et donc, il reste tout le temps là, comme ce qui s'oppose à l'intelligible. Ce qui est comme inatteignable. C'est très curieux. C'est inatteignable dans l'ordre du divisible. Qui est ce que l'intelligence, cependant, essaie d'atteindre. L'intelligence ne peut pas abdiquer. Et pourtant, elle est obligée de reconnaître qu'il y a quelque chose dans la quantité qui est inatteignable. Mais pas inatteignable comme dans quelque chose qui transcende. Ce qui transcende, je le connais analogiquement. La quantité, puis-je la connaître analogiquement ? Comme telle, elle répugne à l'analogie. Puisque comme telle, elle est divisible, elle est inconnaissable. Elle répugne. Elle est le domaine du conditionnement et de l'univocité. Elle est terriblement univoque. Parce qu'elle est divisible, en puissance. Vous voyez comme c'est délicat lorsqu'il s'agit de la quantité, de saisir ce qu'elle est. Évidemment, je peux dire tout simplement, c'est le divisible. Ouais. Et vous ne comprenez pas ce que c'est quand vous dites ça. Il faut saisir le divisible, forcément, par l'indivisible, par l'acte. Et donc, vous ne la saisissez jamais directement, puisque la puissance n'est jamais saisie directement. Toujours saisie par l'acte. Donc, ce qu'elle est en elle-même, quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que la quantité ? Elle échappe. Elle est le domaine, j'allais dire, vous voyez, comprenez bien, on prend des métaphores, hein. Elle est le domaine dans lequel l'être se cache. L'être se voile. L'être se voile dans la quantité. Dans la quantité. Alors vous allez me dire, il se voile radicalement dans la matière. C'est vrai. Il se voile radicalement dans la matière. Mais s'il se voile d'une façon très subtile, dans la quantité, parce qu'il se voile d'une façon relative. Quand il se voile radicalement, d'une manière abyssale, c'est la matière. Alors on la laisse tranquille. Tandis que quand elle se voile d'une façon très subtile, par ce jeu constant du divisible, alors à ce moment-là, c'est tout à fait différent. Puisqu'elle nous agace. C'est comme celui qui se cache et qui monte et qui se montre. Et puis dès que vous voulez l'attraper, il se recache. C'est un jeu extraordinaire. Et c'est ça la quantité. Vous n'arrivez pas à la saisir. Et vous savez qu'elle est là. Alors elle se manifeste parce qu'elle est d'ordre de la médiation. Mais voyez, pour saisir la quantité, pour saisir vraiment la quantité au point de vue philosophique, il faudrait la saisir par le point de vue de la matière. Alors, je la saisirai de l'intérieur. Mais comme la matière n'est pas saisissable directement, je ne peux pas la saisir directement. Alors, je la saisis par la division. C'est pour ça qu'il y a comme une espèce de jeu. Est-ce que la quantité ne maintient pas le jeu ? Pas le jeu personnel, hein ? Jouer. Parce qu'elle échappe. Il essaie de comprendre ce domaine propre de la quantité, qui est très très curieux philosophiquement. Mais le domaine du conditionnement, c'est très simple de dire le conditionnement, mais qu'est-ce que c'est que le conditionnement ? C'est justement ce qui vous empêche de comprendre. C'est votre limite. Qu'est-ce que votre limite ? C'est justement ce qui vous empêche de vous comprendre parfaitement. Si vous étiez illimité, vous vous comprendriez parfaitement. Mais parce que vous êtes limité, il y a un obstacle à votre intelligence de vous-même. Et qu'est-ce qui est source de ça ? C'est la quantité. Donc bien que la quantité est source de l'absurde, le conditionnement est source de toutes les ratés, de toutes les absurdités, de toutes les limites. C'est ça votre conditionnement. Ça vous englue. Et quand Sartre parle de l'être englué, c'est la quantité. Il n'arrive pas à saisir vraiment l'être. Alors, comme sa philosophie est une philosophie de la qualité, la quantité est là pour être ce qui englue. Et c'est la quantité qui fait ça. C'est ce domaine propre de la quantité. Qui est quelque chose que nous ne pouvons pas saisir, même intellectuellement, directement. Parce que ce que je saisis directement, c'est l'acte, la division. Alors vous voyez, je la saisis quand même. Parce que l'être en puissance est quand même un mode de l'être. L'être en puissance, ce n'est pas le néant. Si je disais tout simplement que l'être en puissance, c'est le néant et le non-être, je dirais que la quantité, on la néglige. Le conditionnement, on le néglige. pas du tout. Je n'ai pas le droit. L'être en puissance, c'est de l'être. Et c'est de l'être en puissance. C'est donc un être que je ne saisis pas directement et que je saisis qu'en l'actuant. Et en l'actuant, ce n'est plus lui. Forcément. Ce qui est actué du divisible n'est pas le divisible. C'est pourtant le divisible qui est actué. Mais ce n'est plus le divisible dans son état premier, dans son état quiditatif. Ce qu'il est en lui-même. Voyez, comprenez bien ça, il faut d'abord s'enfouir dans la quantité. Il faut d'abord un peu comprendre ce domaine engluant de la quantité. C'est très important ça. Comment vous avez une conception bourgeoise de la quantité, prédicamentale, la quantité prédicament, mais elle est classée.